Le roman d'un brave homme par Edmond Abouf. À Valentine. Pour ton 15e anniversaire, qui va sonner, fille chérie, je t'offre ce roman comme un bouquet de vérités simples et de sentiments naturels. Tu peux le lire d'un bout à l'autre. J'aime à espérer que plus tard, tu le liras à mes petits-fils. Ils y apprendront maintes choses que tu possèdes déjà mieux que personne. Le culte de la patrie, l'amour de la famille, la passion du bien, le sentiment du droit, le respect du travail, l'esprit de solidarité qui unit les pauvres aux riches, les illettrés aux savants. Ceux qui n'ont et ne sont rien encore, à ceux qui ont et qui sont presque tout. La vie sera probablement moins difficile pour tes enfants qu'elle ne l'a été pour ton père. C'est un bonheur périlleux et qui, si l'on y prenait garde, nous exposerait à faire souche d'inutiles. Si l'un des tiens, par impossible, manifestait la peur ou le dégoût du travail, tu lui dirais combien de fois à ton réveil tu m'as vu pencher sur les feuilles de ce manuscrit, que de soir tu m'as laissé seul, la plume en main, à l'heure de ton repos. Et si jamais la sotte vanité empoisonnait quelques baies jaunes de ta nichée, tu lui rappellerais que l'auteur de ce livre, ainsi que son héros, n'a pour ancêtre que des pauvres, des humbles et des petits. Chapitre 1. Les Dumont. Mes fils sont de braves garçons, assez bien élevés tous les quatre pour que la fantaisie ne leur vienne jamais de couper en deux, comme un verre, le nom très plébéien de leurs aïeux. Toutefois, comme ce n'est pas pour eux seuls, ni pour leurs sœurs, mais pour mes futurs gendres et mes petits-enfants que j'écris à 50 ans ces mémoires, je ne crois pas superflu d'attester que je m'appelle Dumont en un seul mot, et que je ne descends d'aucun mont connu dans l'histoire. Enfin, si quelque fabricant de généalogie, attiré par le son de mes écus, s'ingérait de tromper les autres et vous-même sur l'humilité de votre origine, répondez-lui en le poussant dehors, « Nous savons mieux que toi qui nous sommes. » L'auteur de notre fortune, Pierre Dumont, était fils unique du charpentier Pierre Dumont, dit « mes semblables », et petit-fils de Pierre Dumont, dit « la France », cultivateur au village de Launay. Il faut que vous connaissiez ces deux hommes, dont le souvenir m'est plus cher et plus respectable que tout. Mon aïeul paternel était un de ces prolétaires campagnards qui, sans posséder presque rien, pourrait vivre 100 ans sans manquer de pain et élever par surcroît une nombreuse famille. Son patrimoine, la dot de ma grand-mère et les acquêts de la communauté, formaient un total bien modeste, car la vente de ce domaine éparpillé sur tout le banc de la commune a produit une 12 000 francs, les frais payés. Il y avait une maison d'habitation, antique et délabrée, mais qui me semblait admirable à cause du grand lierre et des moineaux nichés dans les trous. Le jardin d'à côté, tout petit mais commode, car le persil et les légumes y étaient à 4 pas de la cuisine, le jardin d'en bas, situé dans le voisinage du moulin et ravagé par les escargots, le verger peuplé de vieux arbres sous lesquels mon père et mes oncles ont mené paître tour à tour l'unique vache de la famille. Ajoutez à cela un petit carré de pommes de terre, le long d'un autre champ, clos de murs, où mes pauvres chers vieux reposent aujourd'hui. Une vigne où l'on récoltait non seulement quelques barriques de vin aigrelé, mais des haricots mange-tout et des pêches en plein vent, vertes et veloutées, dont l'amertume délicieuse me fond la bouche en eau lorsque j'y pense. Enfin, tout en haut du pays, une chênevière où je n'ai jamais vu pousser un brin de chanvre, mais où l'on admirait le roi des cerisiers, un arbre énorme et généreux, dont les fruits mûrs à point et dévorés sur place me transportaient au 7e ciel. Oh, les cerises de 1838! Jamais je n'en mangerai d'aussi bonnes, car je n'aurai plus jamais 10 ans. Pour expliquer comment 120 arts de terre, découpés en petits morceaux, ont pu nourrir 5 garçons et une fille, tous vivants, bien portants et honnêtement établis, j'aurai besoin de vous montrer mes grands-parents dans cette activité tranquille, mais incessante et réglée, qui distingue le petit cultivateur de nos pays. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, je vois mon grand-père et ma grand-mère levés avec le jour, bien lavés dans l'eau fraîche de leur puits, et cheminant, chacun de son côté, jamais ensemble, vers une besogne ou une autre. Je les vois, quoiqu'ils n'aient jamais eu d'autre montre que le clocher de leur village, réunis ponctuellement à midi autour d'un plat de légumes au lard, flanqué de quelques friandises, comme le radis noir en tranches ou la salade de concombre. C'est grand-maman qui fait le pain et la cuisine depuis qu'on a marié ma tante Rosalie au maréchal Ferrand de Grancé. Jamais serviteur ni servante n'a mis les pieds dans la maison. On s'est toujours servi les uns les autres. Il y a eu de rudes moments, paraît-il, quand les petits n'étaient encore bons à rien et qu'ils ouvraient des becs insatiables. Et c'est juste à ce moment-là que le pain s'est mis à coûter 5 et 6 francs la miche, après les guerres de l'Empire. Mais personne n'a trop pâti, et la preuve, c'est qu'on est là, au grand complet. Depuis que les enfants gagnent leur vie à part, les vieux du Mont sont quelquefois tentés de dire qu'il y a trop à la maison pour eux seuls. Leurs forces n'ont pas diminué sensiblement, et ils ont toujours aussi peu de besoins que lorsqu'ils nourrissaient un petit peuple. La vache donne plus de beurre et de fromage qu'ils n'en peuvent consommer. Le marché de Courcy, où grand-maman va 2 fois par semaine, à pied, son panier sur la tête, paye le farinier et l'épicier. Quant au boucher, un juif ambulant qui colporte les morceaux d'une vache trop vieille ou d'un veau trop enfant, les Dumont n'ont affaire à lui que dans les occasions solennelles. Je ne parle ni du tailleur ni de la couturière, car les habits du père étaient indestructibles, et la mère s'habillait elle-même, de pied en cap, à la vieille mode de Touraine. Elle filait, cousait, tricotait, lavait et repassait avec la dextérité d'une fée. Et il faut croire que le bonhomme n'était pas maladroit non plus, car pour fabriquer une échelle, réparer une tonne ou un cuveau, ajuster une vitre, emmancher un outil, il ne s'adressait qu'à lui-même. Ce n'est ni le docteur ni le pharmacien qui pouvaient déranger l'équilibre de leur budget, car ils ont vécu vieux ans sans savoir ce que c'est que d'être malade. Ils étaient donc à l'aise, sans argent, chose commune dans nos campagnes. Leur superflu s'écoulait chez mes oncles et chez mon père en panier de fruits, en rayons de miel ou en fromage salé. Et jamais un mendiant ne frappait à leur porte sans recevoir des mains de ma grand-mère une tranche de son pain bis. Je voudrais vous laisser leur portrait plus vivant que le mauvais daguerréotype aux 3/4 effacé qui les montre assis côte à côte sur un banc devant la maison. L'ardeur du soleil, la longueur de la pose, la maladresse de l'artiste forain, tout a concouru, ce me semble, à les défigurer. Mon grand-père, quand je l'ai connu, c'est-à-dire quand j'ai commencé à me connaître moi-même, était un grand vieillard, légèrement voûté, mais solide et nerveux. Ses cheveux blonds, qui ne se sont jamais décidés à blanchir, tombaient en boucle sur le cou et encadrait un visage très fier, aux yeux bleus, aux dents puissantes, au menton carré. Sur sa face toujours rasée, le hâle qui noircit les brins avait étendu une patine rougeâtre comme celle des bronzes florentins. Son col rabattu et ouvert en toute saison, sans cravate, montrait les veines, les muscles et les tendons d'un cou noueux. On devinait à cet échantillon un corps parfaitement sec et sain, allégé de tout embonpoint par le perpétuel entraînement du travail. Greuze a connu ce type et il l'a peint plus d'une fois, mais en l'amollissant beaucoup. Ma grand-mère avait été, disait-on, la plus jolie fille du village. Elle-même s'admirait quelquefois, par habitude, dans une vieille gravure coloriée que grand-papa avait achetée au colporteur pour la ressemblance et qui s'intitulait « La petite futée ». Hélas, la petite futée était devenue une bonne grosse mère et les fossettes de ses joues se noyaient un peu dans les rides. Mais l'œil était toujours vif, les pommettes fraîches, les dents blanches, la voix jeune et mordante. D'ailleurs, c'était ma grand-maman. Je l'aimais telle que l'âge, le travail et la maternité l'avaient faite, et je ne l'aurais pas échangée contre une autre. Le vieux Dumont était sans doute du même avis, car il l'aima jusqu'à sa mort, en la querellant tous les jours. Si l'amour, comme on l'a souvent imprimé, vit de contraste, il avait de quoi se nourrir dans cet honnête petit ménage. Les deux vieillards ne se ressemblaient pas plus au moral qu'au physique. L'un était hardi, entreprenant, aventureux à l'excès. L'autre, sage, prudente et routinière, au-delà de toute mesure. Le bonhomme avait accompli dans son temps des choses extravagantes. La bonne femme piétinait à petits pas dans les chemins battus. Il y avait en lui quelque chose de la généreuse folie de Don Quichotte, et chez elle, un atome du bon sens pratique et railleur de Sancho Panza. S'il eût été maître absolu de sa personne et de ses affaires, il aurait fait peut-être une grosse fortune, car il avait l'esprit ouvert à tous les vents, et les bonnes idées ne chômaient pas dans son cerveau. C'est lui qui découvrit, en 1799, la riche marnière de Launay, et qui fit voir à notre agent voyer, sur le tracé de la nouvelle route, en 1817, le banc d'argile réfractaire. Mais grand-maman ne lui permit jamais d'aborder une affaire aléatoire, pas plus qu'elle ne toléra sur les petits lopins de la communauté l'expérience des cultures industrielles, comme le houblon, la garance, la betterave à sucre, qui ont enrichi bien des gens. Les deux ou trois essais qu'il se permit à l'insu de sa femme, sans argent et sans appui moral, réussirent moins bien. Elle en prit avantage sur lui. Il en garda un peu d'aigreur contre elle. Et ce fut la matière de discussion sans fin, où il n'avait tort en bonne foi, ni l'un ni l'autre. Mais leur querelle elle-même était d'un bon exemple pour leurs enfants, car le plus grand malotru de la terre, au bruit toujours discret de ses débats, aurait appris à vivre. Jamais les deux vieillards ne se sont tutoyés. Ils n'avaient pourtant pas hanté la cour de Louis XV, quoiqu'ils fussent nés tous les deux sous le règne du bien-aimé. Les paysans tourangeaux de leur âge et de leur voisinage étaient polis comme eux, et comme eux, sans avoir appris la grammaire, parlait un doux langage, aussi harmonieux, limpide et coulant que l'eau du Cher dans le parc de Chenonceau. « Père, reprendrez-vous de la salade ?»« Grand merci, mère, gardez pour vous. » Voilà le ton de leur conversation lorsque la paix régnait au logis. En temps de guerre, voici les plus gros mots que j'ai eu l'occasion d'entendre. « Père Dumont, m'est avis que vous vous trompez tout à fait. » « N'ayez crainte, mère Dumont, je sais encore ce que je dis. » En fin de compte, après maintes querelles aussi terribles que celle-là, il s'était partagé, vers 1800, la direction des affaires. Il avait été convenu que maman Dumont, jeune alors et fort entendue, aurait les clés de tout, depuis la cave jusqu'au grenier, et qu'en revanche, l'éducation des enfants nés et à naître appartiendrait sans réserve au père. Partage inégal, qui livrait à une femmelette de 27 ans les finances, l'agriculture, le commerce, tous les ministères, sauf un. Mais les femmes, qui valent 100 fois mieux que nous, nous sont surtout supérieures en économie domestique. L'épargne française est leur ouvrage. Ce sont elles qui ont créé nos milliards à force de cacher de petits sous dans de grands bas. Ma grand-mère, depuis le premier jour jusqu'au dernier, fut une ménagère incomparable, dure à elle-même, sévère aux enfants, sans pitié pour les fantaisies du père Dumont. « Si je n'étais pas là, lui disait-elle, vous n'auriez ni une pièce de toile dans l'armoire, ni un tonneau de vin dans la cave. » Et vous vous seriez mis vous-même à la broche pour mieux régaler vos amis. » Dame, elle ne les aimait pas beaucoup, les amis. Mais c'est en leur fermant parfois la porte au nez qu'elle épargna de quoi leur rendre de vrais services. Après avoir aidé mes oncles et mes tantes, qui n'avaient pas tous réussi. Le grand-père, de son côté, fut un instituteur comme on n'en voyait guère en ce temps-là, ni même aujourd'hui. Il n'était pas grand clerc, je vous l'ai dit. Il savait lire couramment, écrire avec un peu d'effort et compter assez mal, au dire de sa femme. Sa bibliothèque, formée de 15 volumes d'histoire et d'autant d'almanachs, garnissait mal une planchette enfumée entre l'horloge à gaines et le vieux baromètre. Mais Pierre Dumont, dit « La France », n'avait pas son pareil au monde pour commenter éloquemment deux mots qu'on lit sur les drapeaux et qui sont « honneur » et « patrie ». Comme sa famille était vieille, établie à Launay de temps immémorial et estimée de tout le pays dans un rayon de 3 ou 4 lieues, il portait fièrement un nom qui représentait, à ses yeux, plusieurs siècles de travail et de bonne conduite. Ce nom, modeste et banal entre tous, il ne l'eût pas échangé contre ceux de Turenne et Condé réunis. Il gardait une profonde reconnaissance aux braves gens qui le lui avaient transmis d'âge en âge, si net et si pur. Il se faisait un devoir sacré de le garder exempt de blâme, et il voulait que ses enfants en prissent bon soin comme lui. Il s'expliquait là-dessus, en famille, avec un peu d'emphase, mais d'un ton si loyal que personne ne pouvait l'entendre sans partager sa conviction. Sa morale se formulait en axiomes bizarres, mais respectables, dont mon père et mes oncles ne s'avisèrent jamais de rire. Un Dumont ne ment pas. Les Dumont n'ont jamais emprunté un sou sans le rendre. Il n'y a pas de place pour le bien d'autrui dans la maison Dumont. Un Dumont ne frappe pas plus faible que lui. Si tu manquais de respect à une femme, tu ne serais pas un Dumont. Les Dumont, de tout temps, ont été les serviteurs de leurs amis. Cet enseignement, secondé selon toute apparence par le bon naturel des auditeurs, eut pour effet de maintenir à un niveau assez élevé les sentiments de toute la famille. Il était impossible que de jeunes paysans, à peine dégrossis par un magistère de village et livrés dès l'enfance au travail manuel, devinssent des hommes supérieurs. Mais j'ai pu constater que mon père et mes oncles, et tante Rosalie aussi, exerçaient avec dignité les professions les plus humbles, et que pas un enfant du grand-papa La France n'oublia le respect de son nom. Le moment est venu d'expliquer le surnom ou le sobriquet du bonhomme. Nos tourangeaux sont des railleurs impitoyables, prompts à trouver le défaut de la cuirasse et à larder les gens d'un seul mot, comme si l'esprit de Rabelais soufflait encore à travers champs. Or, mon grand-père, il faut bien l'avouer, prêtait le flanc à la plaisanterie par un patriotisme trop ardent pour n'être pas démodé. Il avait été volontaire en 1792, dans sa 22e année, et, n'en déplaise au savant académicien qui démolit pieusement la plus noble de nos légendes, il n'avait pas couru à la frontière de Wissembourg comme un chien qu'on fouette, mais comme un bon soldat et un bon citoyen, enflammé de l'amour du pays. Ce n'est pas pour cueillir des lauriers qu'il prit le sac et le fusil, mais pour repousser ce fléau et cette honte abominable qui s'appelle l'invasion. Comme il ne se vantait de rien, sinon d'avoir fait son devoir, et comme il revint se marier sans avoir gagné ou accepté aucun grade, je suis mieux informé de ses dangers et de ses misères que de ses coups d'éclat, s'il en a fait. Mais je crois fermement, sur sa parole, que les armées de la Meuse et du Rhin ont fourni de belles marches sans souliers et livré de rudes combats le ventre creux. Il racontait avec un mâle plaisir ces actions classiques où la valeur personnelle de l'homme jouait le rôle principal et où les plus savantes combinaisons d'un général en chef étaient bouleversées par une charge à la baïonnette. Mon imagination d'enfant s'allumait au récit de la délivrance nationale. J'étais bien trop timide et trop respectueux pour aller dire, de but en blanc, « Grand-papa, racontez-moi donc la guerre !» Mais lorsque par bonheur j'obtenais la permission de passer quelques jours de congé à Launay, on me couchait après souper dans un coin du grand lit à colonne torse. On tirait sur moi les rideaux de toile de Jouy. La lampe s'allumait, ma grand-mère mettait son rouet en mouvement. Mon oncle Joseph, le charron, arrivait, suivi de sa femme. Une demi-douzaine de voisins et autant de voisines entraient successivement. Les femmes avec leurs tricots, les hommes avec leurs grands bras pendants et leurs mains lasses. Tout le monde s'asseyait sur les chaises de paille ou sur les bancs de bois poli, et la conversation s'engageait. Après les inévitables propos sur la pluie et le beau temps, choses qui sont d'un intérêt majeur à la campagne, et les mercuriales du marché, et les petits événements de la ville voisine, on abordait des questions plus hautes et d'un intérêt plus général, comme la suppression de la loterie, l'invention des allumettes allemandes qui devaient remplacer le briquet phosphorique, le retrait des anciennes monnaies, l'obligation du système métrique, la création des chemins de fer, souhaitée par ceci, redoutée par cela, mise en doute par le plus grand nombre. Quelquefois, le père Antoine, épicier et cantonnier, tirait de sa poche un journal de la semaine dernière, emprunté à l'unique cabaret du village, et la politique entrait en jeu. Mais, soit par un chemin, soit par un autre, mon grand-père arrivait toujours à son thème favori, la glorification de la France et l'exécration de l'étranger. L'étranger, pour lui, se divisait en trois sections également haïssables, l'allemand, l'anglais et le russe. « Tous ces gens-là, disait-il, veulent avoir la France, parce qu'ils ne trouvent chez eux que du sable, de la boue, de la neige et du brouillard, et que la France est le plus beau pays du monde, le plus doux à habiter, le meilleur à cultiver, le plus varié dans ses aspects, le plus riche en produits de toutes sortes, et, pour tout dire en un mot, l'enfant gâté de la nature. C'est pourquoi le premier devoir du Français est d'avoir l'œil sur la frontière et de se tenir toujours prêt à défendre le patrimoine national. » Il exprimait avec une émotion poignante ce qu'il avait senti de honte et de colère en apprenant que l'étranger foulait le sol sacré de notre France, et le mouvement spontané qu'il avait fait soldat avec 1 million de Français, tous patriotes comme lui. Le monde n'a rien connu de plus généreux, de plus désintéressé, de plus grand que cette guerre défensive, telle que je la vois encore à travers mes impressions d'enfant et ses souvenirs de vieillard. J'en rêve encore quelquefois à mon âge. Mon esprit est hanté de visions à la fois sombres et radieuses, où les soldats français, coude à coude, en bataillon carré, déchirent leurs cartouches avec les dents et repoussent à coups de baïonnette les charges de l'ennemi. Le canon fait un trou, 5 ou 6 hommes tombent. L'officier, impassible sous ses épaulettes de laine, crie aux autres « Serrez les rangs !» Et le drapeau, ce clocher du régiment, resplendit au milieu de la fumée, sous la garde de quelques vieux sous-officiers, résolus à mourir plutôt que de le rendre. Au bout d'une heure ou deux, l'ennemi, repoussé, décimé, découragé, se débande. On le charge, on le sabre, on le disperse au cri de « Vive la nation! Vive la République !» Lorsque Pierre Dumont frappait un ennemi de sa main, il ne se privait pas de l'interpeller à la mode des héros d'Homère. « Beau capitaine, allez voir là-bas si j'y suis !» Ou bien « Noble étranger, à l'ombre des bosquets paisibles !» S'il lardait un simple soldat, c'était en style familier. « Eh, garçon, cela t'apprendra. Rien de tel ne te fût arrivé si tu avais planté tes choux. » Cette éloquence était dans l'esprit de l'époque. Mais quelquefois, peut-être, ralentissait-elle l'action. Mon grand-père s'en aperçut un jour, qu'il croyait bien pourfendre je ne sais quel émigré de l'armée de Condé. « Parricide ! » lui criait-il. « Ton dard ne déchirera pas le sein de notre commune mère. » Le parricide, un joli freluquet, tout galonné d'or, brandissait une petite épée de cour. Il emporta un coup terrible entre les deux poumons de l'orateur, qui resta 6 mois sur le flanc. Lorsqu'il sortit de l'hôpital, encore mal en point, on lui offrit son congé définitif, qu'il accepta sans se faire prier. La paix de Bâle était signée et le territoire français évacué depuis un bout de temps. Jamais Pierre Dumont n'avait demandé autre chose, et il se souciait fort peu de promener son sac et son fusil à travers les capitales de l'Europe. Chacun chez soi, telle était sa devise. Ni conquérant, ni conquis. Aux camarades qui commençaient à parler de palmes et de gloire, il répondait « Que voulez-vous ? Je suis un volontaire, que 3 ans de campagne n'ont pas rendu troupier. » Prouvez-moi donc qu'il est superbe et glorieux d'aller faire chez le voisin ce que nous jugeons tous abominable quand le voisin le fait chez nous. Il rentra au village, épousa Claudine Minot, une amie d'enfance, à qui il avait dit « Attends-moi ». Et gagna lestement ses chevrons de père de famille, sans retourner la tête vers ses anciens camarades de lit, qui passaient maréchaux, princes ou rois sous Bonaparte. Mais au commencement de l'année 1814, quand il sut que les étrangers, si longtemps molestés chez eux, revenaient à la charge et envahissaient la France par tous les bouts, le volontaire de 92 se réveilla, plus jeune et plus acharné que jamais. Si j'interprète bien ces demi-mots et les reproches discrets de ma grand-mère, il s'échappa la nuit, comme un voleur, laissant sa femme et ses enfants, courut à pied jusqu'au fin fond de la Champagne et s'engagea dans un régiment où on le fit sergent d'emblée, bien malgré lui, tant les bons sous-officiers étaient devenus rares. Lui-même n'a jamais compris par quel miracle ou quelle fatalité, après avoir reçu le 27 janvier le galon simple à Saint-Dizier, il se retrouvait dans la même ville le 25 mars avec les épaulettes de capitaine. Il faut dire que dans l'intervalle, il avait vu Champaubert, Montmirail et Montereau, pris part à 20 combats et assisté à une grande bataille. Chaque fois que papa Dumont racontait la campagne de France, il y avait toujours un moment où il baissait la voix, comme pour raconter des choses mystérieuses. L'auditoire se serrait autour de lui, et moi, dans le grand lit où je faisais le mort, je tendais tous les ressorts de mon être pour saisir le secret plein d'horreur. Et j'accrochais des lambeaux d'histoire où il était question de villageois à l'affût derrière les haies, de coups de fusil tirés à la brune sur les traînards et les isolés, de cadavres enfouis dans les jardins ou jetés dans les puits. Le digne homme parlait avec effroi de cette campagne sinistre, dont les exploits ressemblent terriblement à des crimes. « Quant à moi, disait-il, je n'ai fait, commandé ou permis rien de tel. Les Dumont ne confondent pas la guerre avec l'assassinat. Mais il faut passer quelque chose au patriotisme exaspéré, et je ne juge personne. Le lendemain de s'éveiller, je m'échappai furtivement de la chambrette où l'on m'avait porté tout endormi, et l'on me surprenait quelquefois penché sur la margelle d'un puits, cherchant à démêler au fond de l'eau le profil d'un cosaque ou la silhouette d'un pandour. Chapitre 2. Mes semblables. Les saints fils du père La France n'étaient ni paresseux ni manchots, savaient à 14 ans tout ce que le paysan de chez nous apprend sans maître. Monter un cheval à poil, conduire une charrette, tracer un sillon, bêcher un carré de jardin, faucher un pré, tailler la vigne. Mais comme on n'avait ni domaine à leur laisser, ni capitaux à engager pour eux dans quelques fermes, et comme ils répugnaient au métier de garçon de charrue, qui est dur et ingrat entre tous, on les mit en apprentissage selon le goût et l'aptitude de chacun. Le plus jeune, Louis, voulut être cordier. Le quatrième, Joseph, se fit charron. Le troisième, Bernard, fut cordonnier. Auguste, dit cadet, apprenait le métier de tisserand lorsqu'il tomba au sort. Il fut soldat 6 ans, assista à la prise d'Alger, obtint son congé à Lyon, y trouva de l'ouvrage dans la soierie, épousa une honnête et jolie ourdisseuse et ne revint plus. Les pauvres gens ont beau faire tous les efforts et tous les sacrifices pour garder leurs enfants auprès d'eux, la famille la mieux unie est vouée à la dispersion. Maman Dumont se lamentait souvent à l'idée que ses enfants, nourris de son lait, étroitement liés ensemble et dévoués à leurs parents, ne se retrouveraient pas au complet autour de sa table. Ils revenaient au gîte, un jour l'un, tantôt l'autre, jamais tous à la fois. L'oncle Joseph était le seul qui habita Launay, et il n'y gagnait pas facilement sa vie. Ma tante Rosalie avait trouvé son établissement dans un village distant de 2 lieues environ. Mais son mari, bon ouvrier, ne faisait pas fortune, et sa maison était pleine d'enfants. Aussi ne la voyait-on guère. Mon père était le plus heureux de tous, et naturellement le plus utile aux autres. Il habitait Courcy, le chef-lieu d'arrondissement situé à 4 kilomètres au plus de son village natal. C'est là qu'il avait fait son apprentissage chez maître Housset, le charpentier. C'est là qu'il était venu se fixer après son tour de France, maître à son tour, auteur d'un chef-d'œuvre que j'ai gardé pieusement, et successeur de son vieux patron dont il avait épousé la fille. J'ai peu connu mon grand-père Housset. Il était veuf depuis longtemps et cassé par les rhumatismes. Je sais qu'il vivait chez nous, bien soigné, dînant à la place d'honneur, avec ma mère à sa droite et mon père à sa gauche, et qu'il passait presque toutes ses journées dans une chambre pleine d'outils et de bois découpés, à la recherche du mouvement perpétuel. Il mourut sans l'avoir trouvé, à ma première année d'école. La maison où je suis née a disparu depuis longtemps, avec 9 ou 10 autres, pour faire place à la gare du chemin de fer. Elle était au bord du canal, sur le chemin de halage. Sa petite façade blanche, tapissée de vignes, se cachait au fond d'un vaste enclos, toujours encombré de troncs d'arbres, de madriers, de planches, de bois du nord taillés uniformément et mis en pile. Sur la porte de ce chantier, on lisait notre enseigne « Dumont aîné, charpentier ». Et un peu plus bas, sur la droite, une plaque de tôle vernie portait les mots « sapeur-pompier ». 5 ou 6 bambins de mon âge venaient entre les classes prendre leurs ébats avec moi sur ce terrain fertile en récréation de tout genre, plein de cachettes incomparables et merveilleusement disposé pour le jeu de bascule dont nous raffolions tous. Ma mère poussait les hauts cris quand elle me voyait à cheval au bout d'une poutre en équilibre instable qui montait et descendait tour à tour. Mais papa lui disait « Laisse-le faire !» Les enfants ne profitent que de leur propre expérience. Une chute l'instruira mieux que 20 leçons. La méthode avait du bon, car sans autre professeur de gymnastique que la gaminerie de mon âge et l'instinct de conservation personnelle, je devins agile et prudent. Quelques années plus tard, quand je commençais à me servir de mes yeux comme de mes bras et de mes jambes, j'appris sur le même terrain l'estime et le respect de mon père. Les charpentiers sont presque les seuls ouvriers que la division du travail, si bienfaisante et si funeste en même temps, ne peut pas transformer en machine. Ils sont et doivent être complets. Et, dans ce temps où pas un horloger sur 1000 n'est capable de fabriquer une montre de toutes pièces, ils savent leur métier depuis A jusqu'à Z. Quand je voyais mon père, avec ses outils primitifs, débiter une pièce de bois et la finir si correctement que le rabot n'y eut rien trouvé à reprendre, et quand le même jour il ajustait devant moi, sur le sol, les innombrables pièces d'une charpente, aussi compliquée que la couverture de l'abattoir neuf ou celle du marché au grain, je me sentais tout fier d'être son fils, et j'éprouvais autant d'admiration que de reconnaissance pour ce travail manuel dont nous vivions. Nous en vivions fort bien, ma foi, et nous étions heureux sans être riches. Le salon, où l'on n'entrait guère, était meublé d'acajou poli et décoré de belles gravures bien encadrées. On y voyait un tapis neuf devant la cheminée et un petit carreau de moquette au pied de chaque chaise. Dans la salle à manger, tout en noyer, papa, maman, les compagnons, les apprentis et moi, nous nous réunissions 3 fois par jour, le matin pour manger la soupe, à midi pour expédier un gros morceau de viande et un énorme plat de légumes, le soir enfin pour partager une pièce de lard ou de bœuf froid, un chaudron de pommes de terre bouillies, une salade et un fromage du pays. La grosse Catherine, notre servante, ne cuisinait pas mal du tout. Le pain était blanc et tendre, et chacun se versait du vin à sa soif. Quand ma grand-mère s'invitait sans façon après le marché, ou quand papa la France nous apportait un panier de ses poires, ma mère descendait elle-même à la cave et elle reparaissait avec 2 bouteilles de vin cachetées, une dans chaque main. Le jardinet que nous cultivions en jouant, le canal voisin, la rivière, les bois, la plaine, était mis à contribution pour varier notre ordinaire. Mon père était grand pêcheur à la ligne. Il lançait l'épervier. Il n'était pas malheureux à la chasse. Lorsqu'il avait affaire dans un village des environs, il prenait son fusil, sifflait son chien d'arrêt, mon vieil ami Pluton, glissait son grand compas et son crayon carré dans une poche du carnier et faisait route à travers choux. J'étais libre de l'accompagner quand l'école chômait pour une raison ou pour une autre, et ces courses m'ont laissé des souvenirs chers et charmants. D'abord, mon père était le plus bel homme qui fût au monde, et j'admirais naïvement en lui le chef-d'œuvre de la nature. Son grand corps, svelte et droit, ses yeux noirs ombragés de sourcils touffus, sa figure pâle, allongée par un bouquet de barbe brune, ses cheveux ras, son cou brûlé par le soleil, ses mains puissantes, ses mollets saillants, et jusqu'à ses grands pieds logés tout à leur aise dans leurs souliers de cuir écru, représentaient, au moins pour moi, un type accompli. Je l'aimais surtout dans sa veste de drap ou de coutil, suivant la saison, et sous sa casquette américaine à visière droite. Le dimanche, en redingote noire et en chapeau de soie, il avait l'air emprunté, et c'est à peine si je le reconnaissais à la parade des pompiers sous l'uniforme lourd et brillant qui faisait l'orgueil de ma mère. Lorsqu'il avait sa veste et son carnier, moi, ma blouse grise et mes guêtres, et qu'un heureux destin nous donnait à tous deux la clé des champs, je lui disais, avec un accent de joie et de tendresse inexprimable, « Papa, nous sommes nous !» Alors il haussait les épaules, m'embrassait sur le front et répondait en grossissant sa voix, « En route, mauvaise troupe !» Et, partant du pied gauche, il m'enseignait le pas des compagnons du Tour de France. Une, deux, une, deux. La pointe en bas, le jarret tendu. Voilà comme on arpente un kilomètre en 10 minutes. Je m'essoufflais bientôt. Il enrayait sa marche et nous causions. Certes, j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma vie déjà longue beaucoup de vrais savants, diplômés par les facultés et contrôlés par les académies. Mais je persiste à croire que mon père, simple artisan de petite ville, est un des hommes les plus complets que j'ai connus. Il ne savait pas tout, la chose est sûre, mais il savait un peu de tout, et ce peu, il le savait bien, l'ayant appris et presque deviné par lui-même. Son Tour de France avait duré 3 ans, et il avait mis le temps à profit. Il s'était promené du nord au sud et de l'est à l'ouest, et, tout en travaillant de ses bras pour gagner le pain quotidien, il s'était servi de ses yeux et de ses oreilles. « Mon secret est bien simple, disait-il. Je n'ai jamais traversé un champ sans regarder les plantes qui y poussaient, les bêtes qui s'y nourrissaient, et sans échanger quelques mots de bonne amitié avec l'homme qui y travaillait. Jamais non plus je ne suis sorti d'une ville, petite ou grande, sans avoir observé de mon mieux ce qu'on y fabriquait. Ouvriers, j'ai trouvé partout des ouvriers qui savaient peu ou prou leur affaire, et leurs leçons ne m'ont jamais coûté qu'une poignée de main. » D'ailleurs, n'avait-il pas lui-même touché à tout, mis son petit talent au service de 100 industries, construit des fermes, des filatures, des abattoirs, des moulins, des pressoirs, des brasseries, des distilleries, des bateaux pour la mer? Avant d'amorcer les goujons au bord de notre petite rivière, il avait vu pêcher le hareng sur la côte normande, la sardine en Bretagne et le thon dans la Méditerranée. Ah, que le Tour de France est une bonne chose, et qu'on ferait bien d'y pousser les jeunes gens de toutes conditions. La lecture est assurément une excellente chose, et mon père ne s'en privait pas depuis qu'il avait un peu de loisir et d'aisance. Il s'était procuré, petit à petit, 500 volumes bien choisis. Il feuilletait constamment l'encyclopédie des connaissances utiles et les manuels rorés. Il était même abonné, avec 3 ou 4 voisins, à une feuille libérale de Paris. Mais il prisait par-dessus tout les connaissances qu'il avait acquises tout seul. Moi aussi, il m'accoutumait doucement, patiemment, à voir et à penser par moi-même, au lieu de m'imposer ses idées, que mon humeur docile et soumise eût aveuglément acceptée. Plus son autorité sur moi était irrésistible, plus il lui répugnait d'en tirer avantage pour me pétrir l'esprit à son gré. Jamais je n'ai vu professeur plus modeste et moins dogmatique. Il n'affirmait pour ainsi dire rien, et se contentait d'attirer mon attention sur les choses, sans dire ce qu'il en savait. Quand nous entrions dans un bois, par exemple, il me donnait une leçon à chaque pas, et je ne me sentais point à l'école. J'avais pris insensiblement l'habitude d'étudier les couches du terrain chaque fois qu'un talus coupé les mettait en lumière. Je nommais les animaux et les plantes par leur nom, je les classais en tâtonnant un peu, et ils me laissaient faire, sauf à me ramener d'un mot ou d'un sourire lorsque je m'égarais. Au fond, il n'était pas beaucoup plus fort en histoire naturelle que grand-papa la France et le vieil instituteur de Launay. Mais il avait le don de tout envisager au point de vue pratique. Il distinguait soigneusement les animaux utiles des animaux nuisibles. Et j'appris de bonne heure à respecter la taupe, le crapaud, la chauve-souris, la couleuvre, les oiseaux insectivores et tous nos amis méconnus. Je désignais exactement, grâce à lui, les diverses essences de bois, leur qualité, leur prix. On ne m'eût pas trompé de beaucoup sur l'âge d'un chêne, et quand j'étais restée sur mes petites jambes pendant une minute ou deux devant un vétéran de la forêt, j'étais capable de vous dire, à peu de choses près, combien de stères il pouvait donner, tant en bois d'œuvre qu'en bois de chauffage. Au bout de ces petites classes en plein air, il y avait toujours une récompense. Je ne rentrais jamais à la maison sans rapporter un bouquet de violettes, une botte de digital ou un fagot de bruyère rose pour maman, selon que nous étions au printemps, en été ou en automne. Au temps de la sève montante, papa me fabriquait des flûtes de pan ou des sifflets taillés dans l'écorce du saule et des canons en bois de sureau. Nous faisions des récoltes de fraises en juin, de framboises en juillet, de mûres à la fin d'août, et mon père les logeait dans de jolies boîtes rouges ou blanches, aux dépens d'un merisier ou d'un bouleau qui les corsait. En septembre, nous ravagions les noisetiers. Les châtaigniers, les alisiers et les sorbiers avaient leur tour en octobre. Depuis le mois d'avril jusqu'aux premières gelées, nous ramassions des champignons de toutes les couleurs, morilles, chanterelles, cocherelles, oranges, bolets. Mon père estimait que les hommes sont fous de rejeter par crainte un aliment exquis, presque aussi nourrissant que la viande de boucherie, quand un enfant de 10 ans peut apprendre en une saison à distinguer les bons champignons des mauvais. J'étais absolument de cet avis, mais ma mère ne se montra jamais bien rassurée. Elle tremblait un peu devant nos larges platées de cèpes, et elle ne manquait jamais d'en prendre une bouchée ou deux, pour mourir avec nous si nous étions empoisonnés. Mon père professait et pratiquait une philosophie un peu courte, mais saine et solide, tout en morale, sans ombre de métaphysique. Elle avait pour principe une assez haute conception de la dignité personnelle et un vif sentiment de la solidarité humaine. Il faisait le bien, pour avoir, disait-il, le plaisir de raser chaque matin les joues d'un brave homme. Et il fuyait les excès en tout genre, parce qu'il ne voulait à aucun prix se dégrader. Je ne sais pas à quelle école il avait appris ce stoïcisme modeste et pratique. Certains emblèmes trouvés au fond d'une armoire m'avaient fait supposer quelque initiation maçonnique, mais ma mère m'assura que dans l'état de charpentier, on portait quelquefois des insignes professionnels. Ce qui n'est pas douteux, c'est que longtemps après sa mort, j'ai rencontré quelques-unes de ses maximes familières dans « Les pensées de Marc Aurèle ». Comme le philosophe couronné, il était quelque peu citoyen du monde, c'est-à-dire que le patriotisme de grand-papa la France lui semblait trop étroit. Les frontières n'étaient à ses yeux que des lignes de fantaisie, puisque les peuples, unis par l'amitié plus encore que par l'intérêt, ne formaient qu'une grande famille. « Non, disait-il, nous ne reverrons plus la guerre. Les hommes, en se connaissant, ont appris à s'estimer. D'ailleurs, le monde entier mettrait au banc de l'opinion celui qui traiterait ses semblables en ennemis. » Voici à quel propos on l'avait surnommé « mes semblables ». À l'âge de 22 ans, en allant de Nevers à Moulins, il avait eu le bonheur de sauver, au péril de sa vie, un homme et un cheval qui se noyaient dans la Loire. L'événement s'était passé bien près de la petite ville de Decize, où il se proposait de coucher. Il se sécha, soupa avec ses camarades, et il allait se mettre au lit quand la gendarmerie envahit leur modeste auberge et conduisit tous les charpentiers par devant monsieur le maire. Ce personnage était un hobereau fort guindé et prodigieusement haut sur cravate, le vrai maire de 1819. Il fit ranger les compagnons sur une ligne et dit au greffier d'entendre le cocher Jean Soubira. Mon père vit entrer son homme de la Loire, qui le reconnut aussitôt et lui sauta au cou en criant « Le voilà, le héros bienfaisant et modeste !» Le héros n'était pas content. Sa mauvaise humeur redoubla lorsque Monsieur le maire le fit sortir du rang, lui demanda ses noms et prénoms, toujours sous l'œil de la gendarmerie, puis l'interpella noblement en ces termes. « Sais-tu que c'est très bien ce que tu as fait là ?» Lui, qui n'aimait point à s'entendre tutoyer de haut en bas, répondit d'un ton un peu sec « Monsieur, si c'était mal, je ne l'aurais pas fait. » « Sans doute, mon garçon, mais en te précipitant au sein des ondes, prévoyais-tu qu'un administrateur vigilant signalerait ta noble conduite à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur ?»« Il ne faut pas tant de raisons pour poser un paquet et ôter une veste. » »« C'est vrai, mais si un jour, rentré dans tes foyers, tu recevais une belle médaille d'or ou d'argent, avec un grand diplôme signé du roi. » Hé, hey, mon gaillard! Le roi n'a pas besoin de savoir si les pauvres gens cèdent entre eux. C'est leur affaire. Mais je n'y songeais pas. Tu es pauvre et quelques louis te feraient plus de profit qu'une récompense honorifique. On n'a besoin de rien quand on travaille comme mes compagnons et moi. Et l'on ne reçoit pas l'aumône, monsieur le maire. On l'a fait. Le maire, qui commençait à s'échauffer, haussa le ton. « Ainsi, mon brave, tu ne veux rien, ni prime ni médaille. Eh bien, tu es servi. Il ne faut pas être, comme on dit, plus royaliste que le roi. »« Je suis assez payé par le bonheur d'avoir secouru mes semblables. »« Tes semblables ? Ah, ça, le cheval de Soubira est donc ton semblable aussi. Au fait, il est un peu rétif. » Et de rire. Mon père se fâcha tout à fait. « Monsieur, dit-il. J'ai dit une sottise et j'en avais le droit, car je ne suis qu'un paysan mal équarri. Mais vous, qui représentez l'autorité, vous n'avez pas le droit de rendre un honnête homme ridicule. » C'était assez bien répondu, mais nous sommes citoyens d'un pays où ni les bonnes raisons ni les bonnes actions ne désarment la raillerie. Compagnons et gendarmes avaient ri de mon père. Le sobriquet de « mes semblables » lui resta. Il le portait d'ailleurs avec une parfaite sérénité, et c'est lui-même qui m'a conté cet épisode de sa jeunesse. Le mépris des honneurs et l'indifférence en matière d'argent étaient chez lui deux qualités héréditaires. Il les tenait de pape à la France et les poussait jusqu'à l'extrême, comme lui. Jamais ma mère, qu'il aimait tendrement et qu'il consultait sur toute chose, ne put le décider à entrer au conseil municipal ou à accepter un grade dans la compagnie de pompiers. Il estimait que le conseil marchait fort bien sans lui, que les hommes capables n'y manquaient pas et qu'en général, il vaut mieux confier les intérêts de la commune aux hommes de loisirs qui ont montré quelque sagesse et quelque capacité dans la conduite de leur maison. « Quand j'aurai fait mes preuves et cédé mon fonds, disait-il, on pourra voir. » Son obstination à rester simple pompier n'était pas seulement affaire de modestie. Il y entrait beaucoup de dévouement. « Je n'ai pas l'habitude de commander, disait-il, et rien ne prouve que je m'en acquitterai mieux ou même aussi bien qu'un autre. En revanche, j'ai l'œil bon, le bras fort et le pied solide. Pas un seul de mes camarades ne m'attraperait à la course sur le toit d'une maison à 4 étages. Pas un ne couperait une poutre enflammée aussi vite que moi. Ce n'est pas pour parader devant la sous-préfecture ou la mairie, mais pour sauver à l'occasion les personnes et les propriétés que tous les ouvriers du bâtiment s'enrôlent dans la compagnie. Ma place est là où je serai le plus utile au jour du danger. Glorieuse ou modeste, il importe peu. C'est ma place. » S'il manquait d'ambition pour lui-même, il en avait beaucoup pour moi. On l'eût sérieusement affligé et humilié en lui disant que je n'irais jamais à l'école polytechnique. Selon lui, le progrès ne pouvait s'accomplir dans la société que par un travail ascendant des générations dans chaque famille. Il disait quelquefois « Mon père en sait plus long que le sien n'en a jamais su. Je suis non pas meilleur, assurément, mais plus savant que lui. il faut que Pierrot me dépasse. Autrement, ce serait le monde renversé. Fils, tu me monteras sur la tête ou je te renierai pour mon fils. » Le jour où je sortis de l'école primaire pour entrer comme externe au collège communal, il me conduisit par la main jusqu'au cabinet de notre vieux principal, Monsieur Dor, et j'entends encore les conseils de forme bizarre qu'il me donnait chemin faisant. « Tu étais le premier dans la classe du père Archou. Oublie-le, ce n'est rien. C'est une chose finie, enterrée, à recommencer sur nouveaux frais. Il s'agit maintenant de passer sur le corps de 150 petits bonshommes que tu ne connais pas et avec qui tu ne t'es jamais mesuré et qui se défendront, sois-en sûr. Si tu en viens à bout, tu iras faire ta rhétorique et tout ce qui s'ensuit au collège royal. Et là encore, il faut être premier, sous peine de manquer l'école polytechnique. Et à l'école polytechnique, si tu n'es pas premier, tu n'auras pas le choix de ta carrière. Tu voudras être ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, et on te nommera sous-lieutenant, attaché à la personne d'un canon. Joli métier, dans un siècle de paix et de fraternité, où le canon a dit son dernier mot depuis longtemps. Sois donc premier partout où tu iras. Jusqu'à l'âge de 25 ans, un garçon ne doit songer qu'à une chose, être premier. Et maintenant, veux-tu savoir pourquoi? C'est que le banquet de la vie est une table d'hôtes, comme j'en ai traversé beaucoup, où il n'y a pas de quoi pour tout le monde. Les premiers arrivés sont bien servis, les derniers ne trouvent souvent que le torchon au fond du pot. Sois donc premier, mon cher enfant, ne fût-ce que pour avoir le plaisir de donner la moitié de ta part à quelque autre. Ce langage m'étonna beaucoup, et je ne pus l'entendre sans un serrement de cœur. Il contrastait étrangement avec la philosophie de mon père, si douce, si humaine, si désintéressée. Le monde m'apparut tout à coup sous un aspect nouveau. Le but de la vie se déplaça sans transition, comme s'il eût sauté d'un pôle à l'autre. Ainsi donc, il ne s'agissait plus d'étudier parce que la science est bonne, de rechercher la vérité pour elle-même, de faire le bien pour le bien, d'aimer l'humanité comme une plus large famille, mais de courir à travers la foule en jouant des coudes, culbutant celui-ci, écrasant celui-là, pour arriver à table avant les autres et manger le meilleur morceau. À cette idée, les larmes me vinrent aux yeux, et j'aurais éclaté en sanglots si je n'avais retrouvé dans les derniers mots de mon père le bon cœur et la générosité que j'aimais tant en lui. Il devina mon émotion, s'arrêta court au milieu de la rue et se baissa pour m'embrasser 5 ou 6 fois. « Pauvre petit, pardonne-moi de te montrer si tôt le côté sombre de la vie. J'oubliais que tu n'as pas 12 ans et qu'à ton âge on voit tout en beau. Je suis nerveux, j'ai mal dormi. Je ne pense depuis plusieurs jours qu'au grand pas, au pas décisif que tu vas faire. Le collège où tu entres aujourd'hui, c'est le chemin des carrières libérales, qui toutes sont de vrais champs de bataille, à ce qu'on dit. Aucun du monde n'a encore passé par là. Tu ne nous auras pas toujours auprès de toi pour te conduire. Il faut bien que je t'ouvre les yeux sur les rivalités de ce monde, où l'on n'a rien sans l'avoir conquis et disputé. Je ne te prêche pas l'égoïsme, qui est odieux, ni l'orgueil, qui est toujours doublé de sottises. Mais j'avais à cœur de t'apprendre aujourd'hui qu'il faut être premier en quelque chose pour servir ses parents, ses amis, ses concitoyens et notre grande patrie, l'humanité. »